Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, je remercie vivement M. l'abbé Flouger, le supérieur du district de la Suisse, qui m'a invité à venir pour inaugurer cette église, car c'est bien une église. Et je suis émerveillé par la conception de cette église, sa beauté, et son invitation, je dirais, à la prière. Si je félicite M. l'architecte et tous ceux qui ont collaboré avec lui à la réalisation de cette magnifique église. Eh bien, chers frères, pourquoi construire des églises? Mais pour honorer Dieu. Eques domus domini, c'est la maison du Seigneur. Si nous avons des maisons à nous où nous habitons, nous voulons aussi que le Dieu qui nous a créés, celui qui a fait toutes choses, celui qui a fait le ciel et la terre, qui fait cherum et terram, nous voulons que Dieu ait aussi sa maison où nous puissions venir l'honorer, l'adorer, le remercier, lui donner nos actions de grâce, lui demander les grâces dont nous avons besoin. Et alors, nous avons construit des églises. Mais nous avons construit des églises à non pas à n'importe quel Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y en a qu'un seul. Eh oui, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi. Il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui fecit celum et terram, c'est celui que nous chantons. C'est celui qui est l'objet du premier article de notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la terre. Oui, c'est à celui-là que nous nous adressons et c'est envers celui-là que nous nous sentons des devoirs importants, des devoirs d'adoration, de vénération. C'est vers lui que s'élèvent nos prières. Et c'est aussi la réalisation, non seulement du premier article de notre foi, mais aussi du premier commandement. Tu aimeras ton Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Un seul Dieu tu adoreras. Non pas n'importe quel Dieu. Et c'est ceci qui est important. Et Dieu lui-même a voulu se révéler pour que nous sachions d'une manière plus parfaite, pour que les hommes connaissent davantage son existence et puissent l'honorer d'une manière plus parfaite, d'une manière plus réelle, et savoir que quand ils vont dans leurs églises, ils honorent véritablement le Dieu qui les a créés et qui les jugera et qui leur donnera le bonheur au ciel. Dieu a voulu se révéler à travers le peuple élu, qu'il s'est choisi. Et voyez comme Salomon, fils de David, a construit à Jérusalem un temple merveilleux, un temple magnifique. Il a fait venir des cèdres du Liban, il a fait venir l'or d'Arabie dans des quantités que nous ne pouvons pas imaginer, qui faisaient l'admiration de la reine de Saba lorsqu'elle est venue visiter Salomon. Elle est émerveillée. Elle a dit, on a dit beaucoup de choses de vous, votre réputation et la réputation de tout ce que vous avez fait est parvenue jusque dans notre lointain pays. Mais quand je vois ce que vous avez fait dans la réalité, c'est encore beaucoup mieux que ce qu'on nous a raconté. Par conséquent, le temple de Jérusalem devait être quelque chose d'absolument extraordinaire, couvert d'or, d'argent, de pierreries, des bois les plus extraordinaires. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour honorer Dieu. Et ils étaient sûrs aussi, eux, d'honorer le vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, où le prêtre ne se rendait qu'une fois par an? Il y avait l'Arche d'Alliance. Qu'est-ce que c'était, cette Arche d'Alliance? Il y avait, si l'on avait ouvert cette Arche d'Alliance, nous aurions trouvé deux pierres sur lesquelles étaient inscrites, sur la première, les trois premiers commandements de Dieu, sur la deuxième, les sept autres commandements de Dieu, la loi de Dieu, le devoir des hommes vis-à-vis de Dieu. Trois premiers commandements de Dieu, trois autres commandements, sept autres commandements regardant le prochain, deux tables. Il y en avait donc une qui était plus particulièrement vénérable, celle qui regardait Dieu. Eh bien, ils ont construit ce temple pour honorer la loi de Dieu. Et nous, depuis que Dieu lui-même a réalisé les promesses qu'il a faites au peuple d'Israël en venant sur terre, en s'incarnant dans le sein de la très sainte Vierge Marie, Dieu lui-même a voulu venir parmi nous, non plus seulement par sa parole, non plus seulement par les tables de la loi, non plus seulement par l'Arche d'Alliance, mais lui-même en personne. La personne de Jésus-Christ, c'est la seconde personne de la Sainte Trinité, c'est Dieu lui-même, en qui se trouvent le Père et le Saint-Esprit, toute la Sainte Trinité. Quand Philippe demandait, mais Seigneur, montrez-nous le Père, il a dit, mais tu ne sais pas encore que le Père est en moi et que je suis dans le Père, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ce Dieu-là qui est venu parmi nous. Et c'est pourquoi désormais toutes nos prières portent ce cachet. Per Christum Dominum Nostrum. Per Christum Dominum Nostrum. Christum. Christum, l'envoyé, l'élu, Dieu lui-même, venu parmi nous. Et c'est lui qui est dans notre tabernacle et qui sera dans quelques instants dans nos tabernacles. Ah, mais c'est bien autre chose que les tables de la loi. Si les tables de la loi étaient si vénérables pour que Salomon et le peuple juif aient construit un temple qui faisait l'émerveillement du monde entier, nous qui possédons le Fils de Dieu lui-même, dans notre tabernacle, comment l'honorions-nous pas par de jolies églises et par en mettant le tabernacle sur nos autels afin de l'adorer, afin de le vénérer? Nous sommes infiniment plus privilégiés que le peuple juif, bien plus privilégiés, car nous avons le Messie et le Messie demeure avec nous. Et c'est lui qui a institué notre sainte religion, Dieu lui-même. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous tromper. Non seulement il s'est révélé au peuple d'Israël, mais il a constitué son Église. Il a créé un sacerdoce pour continuer son sacrifice, le sacrifice de louange qu'il a fait sur la croix, qui était aussi un sacrifice d'expiation, mais qui était d'abord un sacrifice de louange à son Père, rétablir la gloire de son Père, rétablir la gloire de Dieu que nous avions maculée, que les hommes avaient abandonné. Oui, Jésus sur la croix chantait la gloire de Dieu. Il avait la vision béatifique. Il voyait le Père dans son âme humaine. Mais il était Dieu. Par conséquent, il voyait toute la splendeur de Dieu. Et c'est lui que nous avons dans la Sainte Eucharistie. C'est pourquoi nos ancêtres, et tout au long de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont bâti des temples somptueux, pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ, pour honorer Dieu venu parmi nous. et qui a bien voulu se donner à nous en nourriture par un sacrement, qui nous a donné d'abord la grâce du baptême. Car si nos temples sont construits à la gloire de Dieu, il est évident qu'ils sont construits aussi pour notre sanctification, pour que nous puissions précisément approcher Dieu, le recevoir, nous unir à lui et préparer pour nous le bonheur éternel. Alors notre Seigneur a fait une religion, constitué la religion, la Sainte Église, le sacerdoce, les sept sacrements, pas huit, pas deux, pas trois, sept sacrements, des sacrements qui nous communiquent sa propre vie. Ce ne sont pas seulement des symboles, comme on a trop maintenant l'habitude de nous rassasser les oreilles. Des symboles, ce ne sont pas seulement des symboles, ce sont des signes qui produisent en nous une grâce. Et cette grâce, c'est la vie de Dieu en nous. C'est ce que nous recevons par le baptême. Hélas, je dirais d'une certaine manière, voyez-vous, nous recevons le baptême trop jeune. Non, nous sommes trop heureux d'avoir été baptisés dans les premiers jours de notre existence pour être déjà avec le bon Dieu, pour recevoir déjà la grâce du bon Dieu en nous. Et c'est bien le devoir des parents, quam primum, disait l'ancien droit canon, quam primum, le plus tôt possible, les parents doivent baptiser leurs enfants. Ce n'est pas d'attendre qu'ils aient l'âge de raison ou qu'ils puissent choisir eux-mêmes. Non, non, quam primum, devaient porter leurs enfants sur les bons baptismaux. Moi, j'ai été baptisé le lendemain de ma naissance. Je suis né à 11h du soir, le lendemain, j'étais déjà baptisé. Je remercie mes chers parents, Deo gratias, d'avoir été baptisé le plus tôt possible. Quam primum, ils ont obéi à l'Église. Et voilà, par la grâce du baptême, par cette eau qui est sortie du cœur de notre Seigneur, car il en est sorti de l'eau et du sang, par cette eau, nous avons été baptisés. Par cette eau, nous avons été faits chrétiens. Un chrétien, un qui n'est pas chrétien, c'est deux mondes différents. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Un chrétien et un non-chrétien, celui qui n'a pas reçu le baptême, qui n'a pas la grâce du bon Dieu en lui, qui n'a pas la vie divine de Dieu en lui, c'est un monde différent. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est comme ça. Nous n'en pouvons rien. Parce que nous avons besoin d'être ressuscités dans la vie divine, nous l'avons perdu par le péché originel et par le péché personnel que nous faisons. Nous perdons cette grâce, nous nous coupons du bon Dieu. C'est grave. Alors mon chapelle nous rappelle justement toutes les grâces que le bon Dieu donne. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la prise de possession de sa paroisse pour un nouveau curé. Autrefois, moi, c'est comme ça. Et c'était très émouvant. Le curé était reçu par le vicaire général à la porte de l'église, ou même éventuellement par l'évêque, et on le conduisait d'abord au baptistère. Il prenait en quelque sorte possession du baptistère, car c'est là qu'il allait faire des enfants de Dieu. C'est là qu'il allait baptiser, c'est là qu'il allait communiquer la première grâce du bon Dieu aux âmes. Important, important, le baptistère est un endroit important. Et puis ensuite, on le conduisait au confessionnal. Il s'asseyait dans le confessionnal, prenait possession du confessionnal pour rendre la grâce aux âmes qui l'ont perdue ou pour l'augmenter dans les âmes qui n'ont pas de péché grave et qui s'accusent simplement de péché véniel. Enfin, pour diriger les âmes vers le bon Dieu. Et puis ensuite, on le faisait monter en chair. Il prenait possession de la chair, de l'enseignement. Il avait enseigné le peuple chrétien. Alors, il adressait quelques mots au peuple chrétien. Et tout cela a manifesté les pouvoirs du curé, n'est-ce pas ? Et ensuite, évidemment, il faisait la plus belle chose qu'un prêtre peut faire. Il allait à l'autel et il offrait le saint sacrifice de la messe. Et il donnait la communion à ses fidèles. Et bien sûr, c'est là qu'après le baptême sera reçue aussi la confirmation. C'est là que les époux recevront le sacrement de mariage. C'est là que la Sainte Messe sera célébrée et que le sacrement de l'Eucharistie donnera Jésus aux âmes pour leur consolation. Et puis un jour, eh bien, après avoir reçu l'extrême onction, c'est là aussi que ce sera le dernier pèlerinage. On viendra, les prières des amis essaieront de nous faire monter au ciel et de nous ouvrir les portes du ciel. Voilà, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter. Le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés et qui nous jugera chacun d'entre nous. Pas en considération de notre voisin. Non, non, chacune de nos âmes sera jugée par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui fecit celum et terram perquem omnia facta sunt, nous le chantons, par qui tout a été fait, tout, tout, tout. C'est inouï, il est bon de penser à ça souvent, de se dire tous ces arbres, tout ce que nous voyons, tous ces astres dans le ciel, tous ces animaux qui courent dans le monde, de tous ces poissons qui sont dans la mer, toute cette atmosphère que nous respirons, l'eau qui descend du ciel, tout ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a créé tout ça. C'est lui le Dieu, c'est lui le vrai Dieu. Alors voyez-vous, quand dans la presse du Jura catholique, ou pas catholique, je n'en sais rien, en tout cas dans la presse du Jura, quand on vient nous dire « Monseigneur Lefebvre va retourner au XVIe siècle », moi je ne retourne pas au XVIe siècle, je garde la religion qui a été enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ, par ses apôtres, et qui a été, je remonte pas seulement au XVIe siècle, je remonte au premier siècle, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'Évangile. Et est-ce que tous ces apôtres et tous ces saints évêques et tous ces saints papes ont prêché, n'est-ce pas? Alors, cette personne que je ne connais pas, qui a écrit dans le journal à propos de la cérémonie d'aujourd'hui, nous dit, on va revenir au Kulturkampf. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il n'y a qu'une seule vraie religion. Parce que je pense, en effet, qu'il n'y a qu'une seule religion, celle du vrai Dieu et celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas de ma faute, j'en peux rien, c'est pas moi qui me suis créé, c'est pas moi qui ai créé le monde, le ciel et la terre. C'est comme ça, c'est un fait, quand je mourrai, et ce sera bientôt, eh bien, je rencontrerai qui ? Notre Seigneur Jésus-Christ, qui me jugera, pas un autre. Ça ne va pas être Bouddha, ça ne va pas être Mahomet, ça ne va pas être je ne sais quel dieu quelconque qui maintenant fait la une dans tous les journaux, n'est-ce pas, qui fait la une de l'œcuménisme. Nous ne voulons pas de chapelle œcuménique, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que nous ne voulons pas honorer Mahomet, parce que nous ne voulons pas honorer Bouddha. Inouï. C'est du paganisme, c'est blasphémé. Il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut pas mettre à côté de celui qui a créé le monde, le ciel et la terre, des images faites par des hommes comme Bouddha, et le mettre sur l'autel, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le seul vrai Dieu. Ce n'est pas possible, ça. C'était un scandale il y a 50 ans. On aurait excommunié tous ceux qui auraient fait des choses comme celle-là. Et maintenant, on excommunie ceux qui disent qu'il n'y a qu'une seule vraie religion. Invraisemblable. Ce qui a été dit et proclamé pendant 20 siècles par les papes. C'est pourquoi nous nous référons surtout au saint pape Pie X. Parce que c'est le dernier saint pape, le saint pape Pie X. C'est notre patron. Et nous le suivons. Et nous suivons tous ceux qui ont été avec lui. Et il se trouve que précisément Saint Pie X condamne toutes les théories modernes qu'on est en train de nous ressasser partout à l'intérieur de l'Église. Saint Pie X a condamné ça. Il a dit ça c'est du modernisme. Il a dit le modernisme c'est le carrefour des hérésies et j'excommunie tous les modernistes. Il a dit Saint Pie X qui a été canonisé, le dernier pape canonisé. Alors, il faut savoir où Saint Pie X a tort, où il a raison. S'il a raison, il condamne tous ceux qui, dans l'Église moderne, sont en train de diffuser les théories modernistes. qui veulent faire de l'œcuménisme, qui disent que toutes les religions sont bonnes, qu'on peut se sauver dans toutes les religions. Non, ce n'est pas vrai. C'est tromper ceux qui sont dans les fausses religions. Pourquoi l'Église a-t-elle envoyé des missionnaires pendant 20 siècles? Pourquoi moi-même suis-je parti pendant 30 ans en Afrique pour aller évangéliser là-bas les Africains? Mais pour leur apprendre qu'il n'y a qu'une seule religion, qu'il faut qu'ils abandonnent leurs fétiches, qu'ils abandonnent leurs dieux païens et qu'ils se convertissent. C'est pour ça que nous y sommes allés. Parce que nous avons cette foi profonde qu'il n'y a qu'un seul salut à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la croix de Jésus, il n'y a pas de salut ailleurs. Le Seigneur a dit lui-même, « Je suis la voie, la vérité et la vie. Ego sum via veritas et vita. » C'est Dieu lui-même qui dit ça. C'est pas moi. Allez, enseignez toutes les nations. Vous apprenez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas moi qui dis ça. C'est notre Seigneur. On nous accuse de ça. Mais c'est notre Seigneur qui a dit ça. Et ça se comprend bien. Notre Seigneur vient nous apporter le message de salut. Et alors on pourrait choisir, dire, oh, moi ça ne me dit rien, ce message de salut, je n'ai pas besoin de ce message de salut. Ah, vous n'avez pas besoin de ce message de salut, mais vous ne savez pas que celui qui vous a fait, il vous jugera quand vous mourrez, et c'est lui qui a fait ce message de salut. Attention, attention. Ne vous dressez pas contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera votre juge. Alors nous avons prêché ça, prêché l'évangile partout, et à la suite de tous ceux qui ont prêché l'évangile avant nous, qui ont converti des populations entières. Et alors c'est pourquoi maintenant, avec cet esprit œcuménique, avec cet esprit de dire, il n'y a plus que la conscience, moi j'ai la religion de ma conscience. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir la religion de votre conscience. Vous devez avoir la religion de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est venu pour la prêcher. Vous ne pouvez pas choisir, vous n'avez pas le choix. Oh, vous êtes alors contre la liberté. Mais le bon Dieu ne nous a pas demandé s'il voulait nous créer ou pas nous créer, il nous a créés, puis il nous a donné des devoirs, il nous a donné une loi, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ferez ça, vous aimerez Dieu, vous aimerez votre prochain, vous ferez ceci, vous ferez cela. Donc on dit, oh mais moi ça ne m'intéresse pas. Ah, ça ne vous intéresse pas. Alors, attention, lorsque vous rencontrerez celui qui est le maître du monde, attention, n'ont pas la liberté de choix de la religion. Nous n'avons pas la liberté de la religion. C'est pas vrai. Nous n'avons pas. C'est pourquoi nous devons être missionnaires. Nous, l'esprit missionnaire, n'est-ce pas? Aller prêcher à travers le monde pour sauver les âmes. Et alors, c'est ce que vous avez résolu de faire ici. Vous avez résolu de garder la foi catholique. Et vous avez fait ce qu'ont fait les catholiques au moment des Ariens. Comme disait saint Athanase, vous avez les églises, nous avons la foi. Qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir les églises ou avoir la foi? Parce que les Ariens avaient volé les églises des catholiques, et les catholiques n'avaient plus d'église. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir les églises ou avoir la foi? Il vaut mieux avoir la foi, évidemment, garder la foi catholique. C'est ça qui nous sauve. Après, il y a eu les protestants. On fait la même chose. Ils ont volé les églises aux catholiques. On en voit encore partout des églises qui sont protestantes, qui étaient des églises catholiques auparavant. Qu'est-ce qu'ont fait les catholiques à ce moment-là? Ils ont dit, bon, vous avez pris nos églises, nous n'allons pas nous convertir au protestantisme pour ça. Nous gardons la foi catholique. Nous allons construire une église catholique en face de votre église protestante. C'est ce qu'ils ont fait. Alors on voit souvent dans les villages, il y avait une église catholique qui est devenue protestante. Maintenant, il y a une église catholique qui est vraiment l'église catholique. Voilà. Eh bien, nous sommes dans un troisième temps semblable. Maintenant, ce sont des églises modernistes, où on honore toutes les religions, où on fait n'importe quoi, où c'est l'assemblée qui est le principal, c'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a plus le respect de notre Seigneur Jésus-Christ. On donne la communion n'importe comment, n'importe qui, n'importe quoi. Les divorcés peuvent communier. Les francs-maçons peuvent venir être enterrés dans les églises. Il n'y a plus de loi. N'importe qui, n'importe quoi, va faire n'importe quoi dans nos églises. Eh bien, nous refusons. Nous ne voulons pas de ces églises modernistes. Nous suivons Saint Pie X et les saints papes, jusqu'au pape Pie XII, puisque depuis, On a laissé la liberté maintenant à tous ces prêtres de prêcher tout ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? Nous, nous voulons garder la foi catholique. Et alors, bien, pour éviter de nous trouver en face de ceux qui prêchent des choses qui sont condamnées par l'Église, condamnées par le bon Dieu, condamnées par notre Seigneur, nous faisons des églises où nous entendrons toujours la parole de la vérité, la parole du message de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous recevrons les sacrements en étant sûrs que ces sacrements donnent la grâce du bon Dieu. Ce ne sont pas seulement des symboles qui excitent notre foi. Voilà ce qu'on dit maintenant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça les sacrements. Le sacrement donne la grâce à ceux qui sont bien disposés. Voilà, alors cette grâce, nous voulons la donner, la communiquer, communiquer la vie de Dieu à nos paroissiens, à nos fidèles. Et ainsi les préparer à la vie éternelle. Enfin, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas autre chose. Nous ne travaillons pas pour autre chose que pour la vie éternelle. Voilà, nous devons donc demeurer dans la paix, dans la sérénité. Nous ne venons pas ici pour combattre les autres. Nous venons ici pour sauver nos âmes. Nous venons ici pour prier, pour être dans une atmosphère de prière. Une atmosphère où nous rencontrons le bon Dieu, où nous sentons en quelque sorte la présence de la très sainte Trinité, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, la présence du bon Dieu. Alors cela rafraîchit nos âmes, cela réconforte nos âmes, et nous nous sentons plus forts pour accomplir notre devoir d'État dans des conditions souvent difficiles. Bien, nous nous sentons plus forts parce que nous avons été réconfortés dans une église où Dieu habite, où Dieu est présent. Voilà ce que nous irons faire. Voilà pourquoi la construction de cette église. Et je vous félicite de tout cœur, mes bien chers frères. Et encore une fois, je remercie vivement tous ceux qui ont contribué à l'érection de ce magnifique lieu de culte. Tournons-nous en terminant vers notre bonne mère du ciel. Que Marie, remplie du Saint-Esprit, puisque la chapelle est destinée au Saint-Esprit, que Marie nous donne le Saint-Esprit. Qu'elle nous communique cet Esprit Saint dont elle a été remplie elle-même. Elle a été remplie de l'Esprit Saint et par conséquent, elle peut nous remplir, nous, à notre tour, de l'Esprit Saint. Demandons-lui de rester toujours ses enfants, de l'invoquer souvent, de réciter notre chapelet en union avec elle afin de demander toutes les grâces dont nous avons besoin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers fidèles, et tout d'abord, Monsieur le Supérieur du district de Suisse, Monsieur le Directeur du séminaire des Cônes, qui m'a fait la joie d'être présent avec tous ces séminaristes, Monsieur le Curé Chèvre, qui avait maintenu la flamme de la tradition dans cette région bien catholique, cher Monsieur l'Abbé Marais, qui êtes chargé d'âme de cette paroisse, cher Abbé Fray, tous les anciens qui se sont dévoués dans cette région, bien chers confrères de tout le district, qui êtes venus aujourd'hui de loin, bien chers fidèles, qui venaient non seulement du Jura, mais de toute la Suisse. Disons au bon Dieu notre action de grâce pour cette cérémonie qui est une grande première, si l'on peut dire, je crois, dans la fraternité, puisqu'il s'agit non seulement de la consécration d'une église, mais également d'une église qui est bâtie de toutes pièces, toutes neuves, par la fraternité Saint-Pidis, grâce aux ailes de M. l'Abbé Marais, de son supérieur M. l'Abbé Flouger, et grâce au crayon de M. Porcellana, architecte, ici présent, grâce également à la bienveillance des autorités civiles de cette cité. Nous avons la joie d'avoir une vraie église, en pierre, bien solide, consacrée avec l'huile sainte, comme jadis Jacob consacra la pierre sur laquelle il avait dormi, et au cours de cette nuit, il avait eu cette grande vision de l'échelle, qui lui montrait le ciel ouvert et les anges montant et descendant jusqu'à Dieu. Et Jacob consacra cette pierre en versant de l'huile sur la pierre et la dressa en monument Et depuis ce temps-là, l'Église verse l'huile sainte sur ses pierres pour en former ses églises. Chers fidèles, l'essence de notre combat, on peut bien le résumer en disant, c'est le combat pour nos autels catholiques. Nous combattons pour la défense, la conservation, l'illustration de l'autel du sacrifice. Et alors que dans toutes les paroisses, les autels étaient démolis, retournés, que sais-je, que, comme jadis les iconoclastes païens, les Romains, renversaient les autels des chrétiens, comme jadis plus récemment, les frères séparés ont détruit les autels catholiques, et comme maintenant, tout récemment, les modernistes remplacent les autels par des tables profanes, eh bien nous, c'est un signe, nous, vrais catholiques qui sommes au cœur de l'Église, nous rebâtissons des églises et des autels. N'est-ce pas merveilleux, bien chers fidèles? Et vous participez, vous avez la joie de participer visiblement à cette reconstruction, alors que tout à côté, eh bien les églises se vident et tout s'écroule. Quel mystère! Comment nous avons été choisis par le bon Dieu, gratuitement, par sa grâce miséricordieuse, pour cette œuvre merveilleuse de reconstruction. Reconstruction ici, dans cette cité de Délémont, dans ce pays jadis si catholique. Alors demandons à la Très Sainte Vierge d'avoir cette même vénération envers cette église, envers cet autel qui vient d'être consacré, qu'elle-même, la Vierge Marie, avait de vénération envers le bois de la croix, puisque nous allons voir l'autel représente le bois de la croix, et de vénération envers le corps sanglant de son divin Fils, quand elle le mena au tombeau, car nous allons voir que l'Église elle-même et l'autel représentent Jésus-Christ et ses membres. Il faut expliquer brièvement la cérémonie qui vient de se dérouler sous vos yeux. Vous avez assisté d'abord à la lustration, c'est-à-dire l'aspersion, et la dédicace de l'Église. Le pontife a parcouru les murs extérieurs puis intérieurs de l'Église, les aspergeant avec l'eau grégorienne. Vous avez vu les croix, n'est-ce pas, l'alphabet grec et latin tracés sur le sol. Tout cela est plein de mystères. Qu'est-ce que cela signifie ? L'Église, d'abord, avec ses pierres jointes, signifie le corps mystique du Christ, formé d'un chef, une tête, notre Seigneur, et de nombreux membres qui sont les fidèles. Et bien de même, l'Église est formée, on peut dire, de l'autel, qui est la pièce principale de l'Église, et puis de nombreuses autres pièces qui sont les pierres qui ont servi à bâtir l'Église. Voyez le symbolisme très profond de l'Église qui est signifié dans la messe de la dédicace que nous chantent les séminaristes. L'apôtre saint Paul dit que notre Seigneur est mort sur la croix pour sanctifier son Église, pour se la présenter à lui-même comme une épouse sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais immaculée. Et bien de même, l'évêque a oint consacrer cette Église pour qu'elle reste immaculée, qu'elle reste séparée du profane, séparée des édifices profanes et sanctifiée, consacrée uniquement au culte divin. L'eau grégorienne, avec laquelle le pontife a aspergé les murs de l'église et l'autel, est formée de sel, d'eau, de cendre et de vin. Le sel, qui signifie la sagesse, la vérité surnaturelle, qui désormais sera prêchée dans cette église, l'eau qui signifie l'ablution sainte, l'ablution des péchés qui aura lieu dans cette église, les cendres qui signifient la pénitence à laquelle les fidèles s'exerceront également après avoir reçu le sacrement de pénitence dans cette église, et enfin le vin qui signifie la sainte Eucharistie, qui signifie l'enivrement surnaturel des fidèles recevant le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ à la table sainte. Et l'alphabet grec et latin qui a été tracé avec la crosse sur le sol de cette église signifie sans doute Jésus-Christ alpha et oméga, Jésus-Christ principe et fin de toute chose. Ici, dans cette église, toutes les activités humaines des fidèles sont récapitulées en un seul chef, notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, comme le disait la préface consécratoire de l'Église, les prières des fidèles seront sûres d'être exaucées. Le sacrifice eucharistique montera vers Dieu, agréable au Père céleste. Et enfin, l'eau de la pénitence lavera le front des fidèles. Ensuite a eu lieu la belle cérémonie de reposition des reliques. Dans l'autel, le pontife a déposé un petit coffret contenant 4 reliques de saints, 2 de saint martyr, en particulier saint Josaphat, martyr polonais pour l'unité de l'Église, qui est mort pour la vraie unité de l'Église, pour le retour des fidèles séparés, des frères séparés à l'unité catholique, n'est-ce pas significatif? Et d'autres reliques de saint martyr, également la relique de notre saint patron de la fraternité, saint Pidis. Pourquoi l'Église veut-elle que la messe soit célébrée sur un autel où se trouvent les reliques de martyrs? Eh bien, c'est assez clair. C'est pour honorer le fait que les martyrs sont morts pour notre Seigneur Jésus-Christ, ont versé leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, ont mêlé, pour ainsi dire, leur sang dans le sang de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'Église désire que la messe soit exclusivement célébrée sur une pierre d'autel avec des reliques, ou à défaut, sur un corporal grec contenant des reliques de martyrs. La messe de toujours, hélas, plus la messe nouvelle, mais la messe de toujours exprime cette vérité dans la prière Ora Mouste que le prêtre récite en montant à l'autel et en baisant le tombeau des reliques, là où se trouvent les reliques des martyrs, signifiant l'union du sacrifice des martyrs avec le sacrifice du calvaire et de la messe. Ensuite a eu lieu la consécration de l'Église avec le Saint-Crème sur 12 croix disposées tout autour des murs, signifiant sans doute les 12 colonnes de l'Église et 12 apôtres qui soutiennent l'édifice spirituel de l'Église. Et puis la consécration de l'autel, le pontife a oint les 5 croix de la table de l'autel avec le Saint-Crème. 5 croix, bien sûr, signifiant les 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaies des mains, des pieds et la plaie du cœur ouvert par la lance. L'huile sainte utilisée pour la consécration des églises, vous le remarquerez, bien chers fidèles, c'est le Saint-Crème qui est utilisé également pour le baptême, la confirmation et le sacre des évêques. Quelle dignité donc pour cet humble édifice de pierre d'être oint avec cette huile qui fait les pontifes et les chrétiens. Enfin, a eu lieu la combustion des 5 croix munies de grains d'encens sur l'autel. Symbolisme très parlant. La flamme de la charité du Christ s'est allumée sur l'autel même du sacrifice, rayonnante. Ensuite, la bonne odeur des grains d'encens, signifiant l'odeur sainte des plaies de Jésus-Christ, infiniment agréable à Dieu le Père. Et enfin, opérant l'expiation des péchés. La préface consécratoire de l'autel fait allusion à tous les autels de l'Ancien Testament qui préfigurait l'autel du Nouveau et Éternel Testament, l'autel que Abel le Juste dressa et sur lequel il offrit le sacrifice agréable au Père, l'autel sur lequel Abraham offrit son fils Isaac, Abraham qui croyait à Dieu de tout son cœur, qui offrit son fils Isaac, son unique, à Dieu de tout son cœur, et ce fils Isaac, qui préfigurait notre Seigneur, qui fut offert, mais c'est un agneau, qui fut immolé à la place. Tout cela est parlant pour nos cœurs catholiques, n'est-ce pas, bien chers fidèles? Enfin, l'autel que Moïse fit dresser, ayant passé la mer Rouge, avec 12 pierres brutes, qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël, et donc l'universalité des fidèles catholiques. Voilà l'essentiel de cette belle cérémonie, très résumée, auquel vous avez eu la joie d'assister, le privilège d'assister. Je crois, en effet, que c'est vraiment un événement exceptionnel. En Suisse, nous avons eu, bien sûr, l'inauguration de nombreuses chapelles, nombreuses églises. Vous vous souvenez sans doute, il y a plus de 10 ans, l'inauguration de l'oratoire Saint-Joseph à Genève, si riche de bénédictions. Mais encore une fois, ce n'était pas une église bâtie toute neuve, comme ici, nous avons la chance de la voir. Soyons donc dans l'action de grâce et prions spécialement le Saint-Esprit, puisque cette église est dédiée à la troisième personne de la Sainte Trinité, à l'Esprit sanctificateur. Et les fidèles auront donc une grande foi en pénétrant à chaque fois dans cette église, en sachant que le Saint-Esprit est là, avec le Père et le Fils, pour les sanctifier, pour répandre sur eux toutes les grâces et les bénédictions dont ils ont besoin dans le combat actuel.